Voilà, ça veut dire 100 donc. Alors, on est une semaine avant la Pâque juive. Et Jésus arrive à Jérusalem. Alors, venez les enfants, mettez devant Jésus les broches de rameaux que vous avez dans les mains et acclamez-le.
Jésus arrive.
Et voici comment Jésus est réellement entré à Jérusalem.
Hosanna, Hosanna, David ! Hosanna ! Hosanna !
Gloire à Dieu !
On va attendre un petit peu le verre. Les jardiniers en rêve. Ok. Donc, en effet, nous célébrons le dimanche des Ramements, donc l'entrée de Jésus dans la ville. Donc, nous sommes dans les environs de 0, 30, de moins 40 à plus 40, entre guillemets, avant Jésus-Christ. Tout le continent était conquis par Rome. Tous ? Bah ouais, quand même. À part un village de Gaulois, apparemment, la domination romaine est assez importante sur beaucoup de pays. Notamment en Palestine, en Judée, dans ces pays-là. Où le territoire il est indépendant, mais il est quand même sous la domination romaine. Et donc, sous cette domination, le peuple doit payer des impôts. Et notamment, c'est pour ça qu'il y a le recensement qui est décrit dans Luc, notamment pour savoir qui c'est qui doit payer, donc avoir une meilleure gestion des rentrées d'argent. Donc dans cette période qui est quand même compliquée, parce qu'il y a les gouverneurs, c'est pas des pendres, il y a plusieurs révoltes qui éclatent, qui sont assez durement punies. Donc voilà, donc dans ce contexte compliqué, le peuple israélite, il attend un messie qui est annoncé dans beaucoup de textes de l'Ancien Testament, notamment en Ésaïe et dans les textes prophétiques. Mais qu'attendait-il vraiment ? Est-ce que c'était un messie ou une personne en tout cas guerrière qui allait les libérer de l'oppression romaine ? Ou alors un messie politique qui va venir les débarrasser des autorités ou avoir en tout cas une meilleure vie actuelle. Donc, on voit dans ce sketch, ça a décrit un petit peu le passage de Matthieu 21, de 1 à 11. Et je vais laisser Edouard.
Matthieu, chapitre 21, verset 1 à 11. Lorsqu'ils s'approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphage dans la montagne des Oliviers, Jésus, en voyant ses disciples, alors disant, allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un anneau avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez. Le Seigneur en a le sein. Et à l'instant, il en sera allé. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi, plein de douceur et monté sur un anneau, le petit d'une ânette. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânette et l'anneau, mirent sur eux leurs vêtements, et le firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches d'arbres et chaussèrent leur route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. » Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue. Et l'on disait « Qui est celui-ci ?» La foule répondait « C'est Jésus, le prophète de Nazareth à Galilée. »
Merci beaucoup. Donc, on voit que Jésus fait une entrée triomphale en Jérusalem. Par contre, on voit que dans le texte, il est cité le passage de Zacharie 9:9 qui dit « Montez sur un anneau ». Si je le ressors, ce serait quand même vachement mieux. Dites à la communauté de Sion, voici ton roi qui vient à toi. Humble, il vient monter sur une ânesse, sur un anneau, le petit d'une bête de sœur. Or, on voit que ce Messie, il avait le statut déjà auprès du peuple, il avait le statut de roi. Or, il aurait très bien pu, d'un point de vue humain, en effet, voir le premier Élisée qui est venu, qui cherchait la gloire, la reconnaissance vis-à-vis de l'influence qu'il avait. Mais non, ça ne s'est pas passé comme ça. On voit qu'il a été humble. Il est monté sur un anneau. Ce n'était pas un destrier, ni en armure, comme on pourrait l'imaginer d'un chef militaire. Mais non, il est vraiment, c'est vraiment humilié au statut du peuple pour pouvoir toucher la foule. Or, on voit que, en effet, Jésus, il n'était pas un homme ni même un roi comme les autres. Tout au long de son ministère sur Terre, il a défié les codes et ce qu'on pourrait attendre d'une personne dite normale, entre guillemets. Parce que il s'attache à son peuple. Il va s'asseoir avec des prostituées, des infirmes, des collecteurs d'impôts, qui à l'époque étaient vraiment mal vus. J'espère qu'il n'y a pas de collecteurs d'impôts. Donc voilà. Mais il était ferme quand il fallait auprès des chefs religieux, des pharisiens, qui va les traiter d'hypocrites, de menteurs. Qui servent leur propre intérêt avec la loi de Moïse. Mais cette fermeté, il a aussi la douceur pour parler au peuple. Il va parler en parabole, ce qui à l'époque qui n'existait pas encore. Il va décrire les situations pour expliquer au peuple de changer. Mais on peut se poser la question de pourquoi, dans ce cas-là, Jésus, il avait des pouvoirs divins, il a fait tant de miracles, il a sauvé tant de personnes. Pourquoi, finalement, il n'a pas libéré les Juifs de l'Empire romain? Après tout, il avait les pouvoirs. Et je pense que l'une des réponses, en tout cas qu'on peut lire, ce sera en Éphésiens 6:12, c'est pas la peine de l'afficher. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. En effet, on ne sait pas Jésus qui l'a dit, c'est Paul, mais j'espère bien que c'est quand même inspiré par, et je suis certain que c'est inspiré par Dieu, que, en effet, on n'a pas à combattre les autorités. Dans la Bible, il est également marqué « Priez pour vos autorités ». Donc on peut avoir confiance, surtout en ces périodes électorales, que Dieu, Jésus, il est capable d'influencer l'esprit des gens, et notamment les personnes qu'on ne s'y attendrait pas forcément, à voir comment ça peut se passer. Donc surtout, Jésus, il va être crucifié, alors qu'il est déclaré innocent par son juge lui-même, il va être crucifié. Donc c'est une torture horrible qui était réservée vraiment aux pires criminels. Et en plus de ça, Jésus va faire quelque chose qui était quand même qui avait été annoncé, mais qui est inattendu pour nos esprits humains, c'est qu'il va gagner contre la mort, contre le péché. Il va ressusciter et nous offrir un pardon et un cadeau qui est vraiment exceptionnel.
En somme de ça, on a pu donc voir que les Juifs, ils attendaient un Messie. Ils attendaient un roi idéal, un descendant de David, sur qui reposerait l'esprit de Dieu. Un roi qui mettrait un terme à la domination des Romains et ferait advenir les temps nouveaux de justice et de paix. Mais en réalité, Jésus est arrivé pour bien plus que ça. Il est venu sur terre, il était humble et il a vraiment voulu changer notre cœur. Notre cœur, c'est comme on l'a dit tout à l'heure, c'est ce qui a importé le plus. Et grâce à ce sacrifice qu'il a effectué à la croix, on peut avoir cette relation personnelle avec Dieu, notre Père. Et les prochains chants qu'on va chanter parlent de ce sacrifice que Jésus a fait pour nous et de l'amour qu'on a pu voir dans toute la vie de Jésus. Ces chants nous encouragent à le remercier, à lui rendre gloire par ces chants et dans toute nos vies. Ah, alors, on va chanter Mon Dieu, par quel amour, le 200, Jésus soit le centre, le 772, Jésus m'a donné la liberté, le 17, et il est Seigneur, le 210.
Vous pouvez vous asseoir. Les enfants qui vont descendre, mais avant ça, je vais prier pour eux. Seigneur, je te loue pour ce temps, je te bénis pour le beau temps qu'on peut avoir dehors et le temps qu'on peut passer ici ensemble à l'intérieur. Seigneur, je te remets les enfants, Seigneur, merci pour qui ils sont, merci pour leur joie de vie, merci pour leur énergie. Seigneur, je te prie d'accompagner particulièrement ces gens, qu'ils puissent être attentifs à ce que tu as à leur dire, Seigneur. Oui, heureux ceux qui te connaissent dans les jours de leur jeunesse, Seigneur. Je te prie d'être avec les moniteurs de l'école du dimanche, pour qu'ils puissent les aider et essayer à grandir, pour leur donner ta sagesse et tes paroles. Seigneur, je te prie pour nous qui restons ici, grands enfants. Seigneur, permets-nous d'accueillir ton royaume comme des enfants, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent, Seigneur, qui accueillent ton royaume avec simplicité. Merci, Seigneur. Amen. Les enfants, vous pouvez descendre. Alors, le dimanche des rameaux, puisqu'on est aujourd'hui, on vous en a déjà largement parlé. Le dimanche des rameaux, ce qui m'intéresse, il montre à la fois bien la façon de réagir des hommes et la façon de penser de Dieu. Et en général, ça ne coïncide pas vraiment. Alors, comme plusieurs d'entre vous le savent, je suis metteur en scène d'une pièce de théâtre qui s'appelle Marc Expérience. C'est une pièce de théâtre qui raconte l'intégralité de l'évangile de Marc et dans laquelle on joue le dimanche des rameaux. Et quand on joue le dimanche des rameaux, je dis à tous les acteurs voilà, de crier à fond « Hosanna, gloire à Dieu, gloire au fils de David ». Et je ne peux pas m'empêcher quand même de penser que 30 minutes plus tard, je vais demander à ces mêmes acteurs de crier pour demander à Pilate de crucifier Jésus. Et c'est un peu ça le dimanche des rameaux. C'est ce paradoxe entre comment l'homme réagit en fonction de ce qu'il pense et comment Dieu réagit, lui. Florent a déjà parlé du fait que le Messie n'était pas celui qui était attendu. Voilà, je veux poursuivre cette problématique du fait que Dieu n'agit pas comme nous, on le penserait. Il ne fait pas bon. Et parfois, quand il n'agit pas comme nous, on le penserait, on se dit qu'il a dû se tromper. Voire, on se dit qu'il n'existe pas. Voilà, on s'est trompé toutes ces années, en fait, Dieu n'existe pas, parce que sinon, il n'agirait pas comme ça. Moi, je me suis dit ça. Mais qu'est-ce que dit l'Écriture ? Ésaïe 55, verset 8. « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. » Le verset 9. « Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Et donc, je vous invite à un petit temps de partage rapide sur la façon dont Dieu agit à partir de différentes histoires de la Bible et d'une expérience personnelle, et quelques conclusions qu'on peut en tirer. Alors, en quoi voit-on que Dieu est surprenant dans la Bible ? On a déjà parlé de la personne de Jésus. On peut penser à d'autres histoires. On peut penser à Gédéon. Gédéon, il a été pris par Dieu pour délivrer son peuple d'Israël dans l'Ancien Testament. Mais Gédéon va dire de lui « Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit de la maison de mon père. » A priori, difficile de choisir ça comme héros. Prenons l'exemple de David. David, alors, tout d'abord, il est choisi comme roi au détriment de tous ses frères, dont son frère Eliab, au sujet duquel Dieu va dire à Samuel « Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. » Déjà, il est plus petit que son frère. Il succède à Saül, qui, au physique, dépassait tout le peuple de sa tête, et dont Samuel dira « Il n'y a personne dans tout le peuple qui soit semblable à lui. » Il gagne contre Goliath, un géant, armé simplement d'une fronde et de cailloux. Il va conserver son trône contre Absalom, son propre fils, de qui la Bible dit pourtant en 2 Samuel 14, 25, « Il n'y avait pas un homme dans tout Israël aussi renommé qu'Absalom pour sa beauté. Depuis la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête, il n'y avait point en lui de défaut. » On peut voir voilà, qu'il a vraiment eu, David, quatre opposants qui, d'un point de vue humain, étaient physiquement beaucoup plus impressionnants. Mais que nous dit la Bible, en l'occurrence, dans 1 Samuel 16, 7, au moment où Dieu choisit David, il a dit « L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Enfin, on peut regarder la personne de Jésus. On a déjà dit en quoi les Juifs attendaient quelque chose de différent, un libérateur, plutôt que quelqu'un qui délivrait du péché. Mais même dans sa façon de se comporter, il était surprenant. Florent a parlé du fait de manger avec des gens de mauvaise vie. Au paralytique qui arrive, il va dire « tes péchés sont pardonnés ». À l'aveugle de Marc 10, il dit « qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ?» Pourtant, il était évident que ces deux-là, ils voulaient être guéris. Ils allaient voir Jésus pour être guéris. Mais qu'est-ce qu'elles nous apprennent, ces histoires ? L'histoire de Gédéon, elle nous montre que c'est Dieu qui donne la force. Et c'est pas qui on est, notre statut. L'histoire de David nous montre que l'Éternel ne regarde pas à l'apparence, il regarde au cœur. Jésus, il nous montre que par-delà le problème de la maladie, ce qu'il veut vraiment traiter, c'est le problème du péché. Et il veut aussi qu'on lui demande des choses, qu'on soit participant, du processus de guérison. Finalement, on voit que Dieu ne fait pas les choses comme on l'aurait pensé, mais qu'il a des bonnes raisons de le faire. Et voilà, je voulais vous partager une expérience que j'ai vécue il y a 2 ans et demi. Certains d'entre vous la connaissent, donc je m'excuse, je vais radoter. À la rentrée 2014, donc il y a 2 ans et demi, j'aurais dû être en colocation avec 2 amis. On avait trouvé le logement fin mai. J'ai commencé à faire, on avait fait tous les papiers, on avait enfin fini le milieu août, parce que ça prend beaucoup de temps de faire ces papiers. Et quand on avait enfin tout rassemblé, la propriétaire nous a dit « en fait, je ne veux pas de coloc ». Donc là, on était un peu dégoûté. Donc tout s'est effondré, on a dû trouver des plans B. Moi, j'ai été logé une semaine chez la famille Kozicki, que je remercie encore. Et ensuite, quelques mois au Cèdre, à l'école des Cèdres, à Massy. Mais pour moi, c'était vraiment la déprime. Je comprenais pas pourquoi Dieu y retirait cette coloc. D'abord, c'était une coloc avec deux chrétiens, deux frères. Et moi, je m'étais déjà dit, si on est ensemble, bah, tous les matins, on pourrait faire une petite étude biblique. Deux fois par semaine, on pourrait prendre un temps pour prier ensemble et grandir ensemble. En plus, ça faisait 4 ans que j'étais à Paris, déjà en région parisienne. Mais comme j'étais dans un internat, moi, je rentrais tous les week-ends chez mes parents, ou quasiment. Et donc, je ne m'étais pas vraiment posé dans une église. Et j'avais envie de me poser dans une église. Et donc, je me disais, si je suis enfin en coloc, je vais pouvoir rester dans une église. Je vais pouvoir m'investir dedans et je vais enfin pouvoir me faire baptiser. Parce que je n'étais toujours pas baptisé à l'époque. Hélas, du coup, c'était un peu tous mes plans qui s'effondraient. Et pour moi, mes plans, ils étaient fondés sur Dieu. Donc, j'avais l'impression que ce n'était pas vraiment cohérent. Dieu avait dû se tromper, quelque part. En vrai, j'ai compris après coup que j'en voulais à Dieu pendant cette période. Sur le moment, ça ne m'est pas apparu. J'ai essayé de faire un spirituel qui ne réagissait pas. Mais en fait, non, j'en voulais à Dieu. Alors effectivement, j'ai passé 2 mois à faire des recherches et je rentrais presque tous les week-ends chez mes parents. Mais il y a un dimanche où je suis resté et je suis venu en fait à l'église de Palaiseau. Et c'était notre frère François Caron, qui prêchait. Alors il prêchait sur l'humilité. Je ne sais pas si tu t'en souviens. Et il nous a demandé d'en trouver une définition. Alors dans ma tête, je me suis dit, facile, ne pas avoir une trop d'opinion de soi-même. Mais en fait, François a écarté cette définition et en a proposé une autre. Accepter la volonté de Dieu. Accepter ce que Dieu voudrait pour nous. Être humble, c'est accepter de se voir ou de voir sa situation, comment Dieu, par le regard de Dieu. Et alors, pour moi, ça fait tic dans ma tête. J'en voulais à Dieu, car je n'arrivais pas à accepter sa volonté pour moi. Je n'arrivais pas à accepter qu'il puisse m'avoir refusé cette coloc. Je suis rentré chez moi et j'ai prié. Prié pour demander pardon. Pardon d'avoir été en colère. Pardon d'avoir été orgueilleux. Pardon aussi de ne pas avoir osé demander pour quelque chose de précis, parce que j'avais pas osé, pour être spirituel, demander un truc précis à Dieu. Et après avoir demandé pardon à Dieu, je lui ai dit, bon, ok, maintenant que j'ai compris ça, alors je voudrais un appartement qui soit assez grand pour pouvoir accueillir du monde, pas très cher, pas loin du RER Massif Palaiseau, et avec une belle cuisine. Et je te laisse gérer ça, maintenant c'est plus moi qui contrôle. Le lendemain, le lundi donc, en fin d'après-midi, j'ai trouvé une annonce. Le mardi matin, j'ai visité l'appart. Le mercredi, j'ai dit au propriétaire que je le prenais. J'ai emménagé 2 semaines après. L'appartement était grand, avec une belle cuisine, pas loin du RER, comme j'avais prié. Et comme j'avais aussi prié, cet appartement a pu être très utile. Déjà, le lendemain du jour où j'emménageais, on avait déjà une réunion de prière chez moi, avec différents amis. C'était il y a 2 ans et demi. Depuis, alors j'ai fait des comptes rapidement pour cette méditation, il y a 150 personnes différentes au moins qui sont passées chez moi. Des personnes qui ont dormi chez moi presque 200 fois. Mon appartement a servi pour des réunions de prière, des réunions GBU, des réunions du groupe de jeunes, des responsables du groupe de jeunes, des soirées de dimanche, des groupes de maison, des études bibliques avec un ami non chrétien, un réveillon, un enseignement de garçon, des soirées jeux, héberger des amis de passage sur Paris, héberger des collègues de Doris du CEL pendant une mission, accueillir des personnes qui n'avaient pas anticipé leur logement pour le soir même. Bref. Tout ça, j'aurais pas pu le faire en colocation. J'aurais pas pu le faire en coloc parce qu'il m'aurait fallu à chaque fois demander leur avis à mes deux colocataires. Et Dieu a vraiment pu utiliser cet appart. De mon point de vue, c'est pas mon appart, c'est le sien. Et je le donne à Dieu, je le laisse utiliser. Et le plus drôle, depuis que j'ai cet appart, je reste les week-ends. Je me suis installé à l'église de Palaiseau, et je me suis fait baptiser l'an dernier. Dieu m'a donné ce que je désirais, et encore plus. Dieu ne réfléchit pas à notre façon. Et nous, ça nous dérange, car on n'aime pas ça. On aime contrôler. On voudrait pouvoir tout contrôler. Et que les choses se passent comme nous, on les a prévues. Et on vient, on est tellement convaincu qu'on a raison, qu'on pense que notre argumentation est la meilleure et que Dieu devrait l'écouter. Mais en faisant ça, finalement, est-ce qu'on ne prend pas Dieu pour un bon génie, pour le génie d'Aladin qui exauce le vœu? Est-ce qu'en voulant tout contrôler, on ne considère pas qu'on est supérieur à Dieu, de cette façon? Parce que c'est moi qui ai raison, c'est pas lui. C'est ce que je pensais pour cet appart. Que Dieu n'avait pas bien compris, et j'ai dû lui demander pardon pour ça. Le problème de vouloir se mettre au-dessus de Dieu, c'est qu'on l'enferme aussi dans nos raisonnements, dans nos pensées. Voilà. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Il nous faut nous humilier et accepter que notre point de vue doit être celui de Dieu et non le nôtre. Car Dieu voit tout. Dieu sait tout, mais ça ne s'arrête pas là. Dieu nous aime. Et il veut notre bien. Ça peut sembler dur à croire. Je ne connais pas vos situations. Il y a des situations dans lesquelles ça peut sembler dur à croire. Mais Dieu contrôle tout. Et Dieu sait par quelle voie aussi il pourrait être glorifié à travers votre vie. Et je terminerai par un tout dernier passage que j'aime beaucoup et qui illustre bien cette incompréhension. Romains 11, versets 33 à 35. Aux profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur? Ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier qu'il ait à recevoir en retour?
Nous avons invité à chanter deux chants. Donc, on a vu jusqu'à maintenant qu'il ne faut pas s'attendre à prier et juste attendre de Dieu ce qu'il nous donne, ce qu'on a demandé, et à écouter, et peut-être qu'il vous fera mieux. Donc, je vous propose de chercher d'abord le royaume de Dieu, ensuite ta bienveillance qui commence par j'écouterai ce que dit Dieu, car il est droit pour qu'il écoute. Parce que Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes, donc je pense qu'on peut juste prier et attendre quelque chose et pas forcément ce qu'on a demandé. Voilà. Versets 4 et 5. Ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion, voici, ton roi vient, plein de douceur, et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. Donc, ce verset est repris d'une prophétie de Zacharie 9, qu'on va lire dans un instant. Et c'est un chapitre du prophète qui parle de la destruction des ennemis d'Israël et du règne du Messie. C'est vraiment lié à cette royauté et ça correspond au passage de Matthieu. Donc, dans Zacharie 9, on lit versets 9 à 11. « Sois transporté d'allégresse, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici, ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne, le petit âne. Je détruirai les chars d'Éphraïm et les chevaux de Jérusalem. Les arcs de guerre seront retranchés. Il annoncera la paix aux nations et il dominera d'une mer à l'autre, depuis le fleuve jusqu'aux extrémités de la terre. Et pour toi, à cause de ton alliance scellée par le sang, je retirerai des captifs de la fosse où il n'y a pas d'eau. Donc, les versets 10 et 11 qui accompagnent le verset 9, repris dans Matthieu, sont des versets qui parlent d'un règne de paix et d'une délivrance pour les captifs. À l'époque où Zacharie écrit, Israël est captif à Babylone. Donc, ce que Dieu a promis, c'est ce règne de paix. Ce Messie qui vient pour instaurer ce règne. Et Jésus est sur le point de l'accomplir dans la scène des rameaux qu'on a joué ce matin. Jésus est sur le point d'accomplir cela. Alors, il y a une partie du verset 9, je ne sais pas si vous avez fait attention, une partie du verset de Zacharie qui n'est pas citée dans Matthieu. Il y a une petite phrase qui est « Il est juste et victorieux ». Alors peut-être l'auteur Matthieu ne l'a pas recopié puisqu'à ce moment-là, Jésus n'est pas encore victorieux. C'est la victoire qu'il obtiendra à la croix, donc une semaine après son entrée à Jérusalem. C'est ce qu'on se souviendra la semaine prochaine à Pâques. Là, Jésus entre seulement à Jérusalem, il enclenche la dernière ligne droite de sa mission. Et il y a une autre expression dans ce texte qui fait écho à une promesse de Dieu, dans le texte de Matthieu. Il est intéressant de regarder comment est-ce que la foule appelle Jésus. Donc c'est le verset 9. Et donc ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Donc il y a cette expression « fils de David ». Et ça, dans la Bible juive de l'époque, l'expression « fils de David », c'est une mention explicite à la royauté. David est le fondateur de la dynastie des rois de Juda. C'est à lui que l'Éternel a fait la promesse qu'il y aurait un roi pour toujours sur le trône. Et voilà, les Juifs, en appelant Jésus « fils de David », ils ont vraiment ça en tête. Il y a deux versets, deux séries de versets que j'aimerais lire qui montrent que c'est bien Jésus qui accomplit cette prophétie, cette promesse d'un roi pour toujours. Le premier, c'est un passage dans Luc 1. C'est le moment où l'ange va annoncer à Marie qu'elle sera enceinte de Jésus. Donc verset 30 à 33, voilà. L'ange lui dit « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. » Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, et il sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur lui donnera le trône de David, son père. Il règnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura pas de fin. Le deuxième passage que j'aimerais lire, c'est un passage dans le prophète Jérémie. Alors, Jérémie écrit principalement un texte d'encouragement aux Juifs qui sont déportés à Babylone, comme je vous dis juste avant. Et pourquoi est-ce que ces Juifs sont exilés? Ben justement parce que les vrais descendants de David, les descendants physiques, les rois humains qui ont succédé à David, n'ont pas écouté Dieu, n'ont pas voulu lui obéir. Donc à cause de ces échecs successifs, Dieu a décidé de déporter son peuple. Et Jérémie leur adresse cet encouragement, c'est le chapitre 34. 33, verset 14 à 17. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où j'accomplirai la bonne parole que j'ai dite sur la maison de Juda. En ces jours et en ce temps-là, je ferai éclore à David un germe de justice. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. En ces jours-là, Juda sera sauvé, Jérusalem aura la sécurité dans sa demeure. Et voici comment on l'appellera, l'Éternel notre justice. Car ainsi parle l'Éternel, David ne manquera jamais d'un successeur sur le trône de la maison d'Israël. Donc, cette entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, c'est le prélude à l'accomplissement de toutes ses promesses. La foule, sans le comprendre vraiment, voyait devant ses yeux les promesses de Dieu s'accomplir. Alors, le peuple ne comprend pas complètement quel genre de délivrance Jésus va apporter. Mais il l'accueille quand même comme le roi envoyé et annoncé par Dieu. Dieu est en train de tenir cette promesse. Le deuxième aspect que je voudrais aborder rapidement,
c'est que Dieu s'est approché de lui.
Donc la foule appelle Jésus fils de David, et ensuite elle dit « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». La foule ne sait pas exactement, ne comprend pas exactement qui est Jésus, mais elle reconnaît qu'il est envoyé par Dieu. Au verset 11, à la fin du passage, la foule dit que voilà, Jésus est un prophète. Mais en fait, c'est bien plus que ça. Jésus est Dieu. Il est le Fils de Dieu. Dieu s'est en quelque sorte envoyé lui-même vers les hommes. Il vient pour les sauver. C'est pas juste un prophète, aussi grand soit-il. Voilà, c'est Dieu, c'est l'Éternel qui a créé le monde, qui nous a créé nous, qui a créé tout ce que l'univers contient, qui vient sur terre prendre soin de sa création. Jésus vient pour cette mission spéciale, vaincre le péché et nous sauver. Alors, nous avons vu, d'une part, que Dieu accomplit ses promesses, d'autre part, qu'il vient vers l'homme pour prendre soin de lui. Et depuis la chute, finalement, Dieu déroule son plan, pas à pas, son plan de salut. Dieu avait promis un roi victorieux, il vient de l'envoyer. Et le peuple réalise à ce moment-là que ce roi, c'est Jésus. Alors, le peuple, je ne sais pas, mais nous, avec les informations qu'on a maintenant et le recul de l'histoire, on peut avoir cette conclusion. Mais on peut quand même se poser la question, vraiment, qui est Dieu pour nous ? Qui est Jésus pour nous ? Est-ce qu'on considère vraiment Jésus comme le Fils de Dieu ou juste un prophète, juste un modèle de vie, un modèle d'amour, ou alors même un homme qui n'a pas de sagesse ? Accueillons-nous Jésus vraiment comme ce qu'il est, comme le Fils de Dieu ? De la réponse à cette question dépend en grande partie de nos vies et dépend aussi l'avenir de nos vies, donc je vous invite à réfléchir à cette question, qui est Dieu, qui est Jésus pour vous. Et maintenant, Jésus nous promet de nous garder une place à côté de lui. Une place dans le ciel, lorsque ce monde sera terminé. Il nous promet que nous le rejoindrons. Il a tenu cette promesse, il tiendra encore celle-là, n'en doutons pas.
Alors, on a pu voir que Dieu est merveilleux, et je vous invite à chanter « Qui donc dans le ciel ?» le 144.